Merci d'être toujours avec nous sur BAC FM dans CDLP, c'est dans les parages, votre émission 100% locale. Que peut une commune face à une guerre qui se déroule à plusieurs milliers de kilomètres? Elle ne peut évidemment pas négocier un cessez-le-feu, mais elle peut accueillir des voix, transmettre une culture, organiser la solidarité ou tout du moins construire des liens entre la population. Du jeudi 17 au lundi 21 septembre, Varennes-Vauzelles consacrera son rendez-vous Mille et une cultures à l'Ukraine, au programme des expositions, du cinéma, du théâtre et plus encore afin de transmettre une culture d'un pays en guerre. Pour en parler, nous recevons Florian Guillon, adjoint au maire de Varennes-Vauzelles, chargé notamment de la culture, de la paix, de la vie associative et de la mémoire. Bonjour et bienvenue sur BAC FM, Florent Guillon.
Bonjour, bonjour à tous.
Ma première question, c'est avant de détailler tout ce programme, partons de la question qui semble traverser toute cette manifestation. Que peut concrètement une ville comme Varennes-Vauzelles face à la guerre en Ukraine?
C'est une très bonne première question. En fait, l'idée, effectivement, globale, c'est de dire que les villes, les communes, c'est le premier échelon de la démocratie et c'est le premier lien avec une population locale. Et donc nous, notre ambition à Varennes-Vauzelles, quand on s'est inscrit dans le réseau mondial des maires pour la paix, c'est de défendre ce qu'on appelle la diplomatie des villes. C'est-à-dire que nous, on est là pour défendre des valeurs de paix, les aspirations des populations des villes, de pouvoir vivre en paix, en sécurité, en harmonie avec la nature si possible également. Et donc, on construit des actions pour nos habitants, pour les sensibiliser à la paix et aussi pour leur dire qu'on peut agir localement pour défendre ces valeurs-là et aussi pour rappeler aux États quelques-uns de leurs engagements au niveau international, voilà, notamment au niveau des Nations Unies. Les pays doivent avoir des rapports cordiaux entre eux, c'est la charte et c'est le préambule de la charte des Nations Unies. Bon, on voit que la planète n'aura jamais autant connu de guerre dans le monde, donc c'est toujours très délicat. En tout cas, voilà, au niveau local, on a une voix à porter, et avec les habitants, et pour les habitants, c'est pour ça qu'on construit ce type d'action culturelle, pour faire découvrir des choses et des cultures voilà, aux habitants des différentes villes.
La Russie attaque l'Ukraine, les États-Unis attaquent l'Iran, il y a également tout ce qui se passe au Moyen-Orient, je pense à Gaza et aux autres guerres, hein. Je pense à la Syrie, et malheureusement on n'aurait pas assez d'une émission pour les lister. Est-ce que c'est aussi une sorte d'appel de la paix, de prendre un porte-voix pour mettre en avant ce message universel?
Totalement, oui, comme vous l'avez dit, la planète a jamais été aussi fragmentée et en guerre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a plus de 64 conflits armés aujourd'hui dans le monde. Et donc, effectivement, encore une fois, c'est la course de certains États à l'armement, à la guerre pour des questions de territoire, de richesse ou même de religion. Et c'est pas vraiment l'aspiration, en tout cas, je crois, de tous les peuples de se faire la guerre entre eux, quoi. Donc, c'est vraiment porter effectivement la voix des habitants et d'essayer de réunir et de fédérer autour de la paix. Je pense qu'on a vraiment une place à jouer en tant que commune, petite ou grande, peu importe la taille, dans ce combat-là.
En 2025, Mille et une cultures étaient consacrées à Cuba, oui, largement persécutée par le gouvernement d'extrême droite de Donald Trump. Pourquoi avoir choisi l'Ukraine pour cette nouvelle édition?
Alors, tout remonte il y a un an à peu près, en 2025, la ville de Varennes-Vauzelles a représenté l'association des maires pour la paix dans plusieurs instances, et notamment le réseau des villes mémoire qui réunit des villes qui ont subi des drames lors de la Seconde Guerre mondiale, notamment Dunkerque, Le Havre, Ouistreham, Krefeld en Allemagne, Auschwitz bien entendu, Hiroshima également fait partie de ce réseau des villes mémoire, et pour le coup, sur cette année 2025, Dunkerque a développé des liens avec une ville ukrainienne qui s'appelle Boutcha, qui a connu un massacre de sa population en 2022. C'est dans l'agglomération de Kiev. C'est là qu'en fait tout a commencé, ou tout a germé effectivement pour la ville de Varennes-Vauzelles. On pensait qu'on arrivait au bon moment pour parler de l'Ukraine, de sa culture. On commençait à apercevoir les tentatives de M. Trump. Alors, il y a eu le Venezuela, il y a eu Cuba, et il y a eu aussi, derrière le Moyen-Orient, de déstabiliser un petit peu beaucoup de régions du monde par ses méthodes d'extrême droite, vous l'avez rappelé.
Alors qu'il a fait campagne, justement, sur, oui, le non-interventionnisme.
C'est ça. Et on voyait un petit peu aussi l'Ukraine pas tomber dans l'oubli, c'est très exagéré, mais en tout cas, on voyait l'attention se déporter un peu sur d'autres conflits. Alors nous, on ne fait pas d'indignation à géométrie variable, hein, vous l'avez compris, on dénonce toutes les guerres, et on parle de toutes les guerres dans notre ville. Mais je pense qu'on arrive en 2026 à un tournant pour l'Ukraine, Avec les États-Unis qui se désengagent, avec l'Europe qui essaye de construire quelque chose pour la paix également, et l'Ukraine qui a envie qu'on parle d'eux aussi, qu'on ne les oublie pas. Et on sort aussi d'une grosse saison culturelle en France, hein, où l'Institut français et l'Institut ukrainien à Paris ont travaillé de décembre 2025 à mars 2026, à une grosse saison pour faire découvrir la culture ukrainienne, justement. Donc en fait, on s'inscrit aussi dans la continuité de cette saison culturelle. Et donc voilà, je pense qu'on arrive à point nommé et que ça s'est construit un petit peu comme ça au fil du temps.
Je me demandais qui avait participé à ce choix. Est-ce que c'est les élus, les assos, les habitants?
Alors, principalement, effectivement, les élus, en concertation avec les services municipaux. À l'avenir, on essaiera effectivement de concerter un petit peu plus les habitants dans le cadre du choix des pays qu'ils souhaiteraient découvrir. Alors, nous, on avait dans cette idée politique, hein, que ce soit en lien avec une actualité ou effectivement avec, malheureusement, soit un conflit, soit une guerre, effectivement, pour rappeler aussi, faire sens par rapport à la paix et à ce qu'on défend dans Myers for Peace. Mais en tous les cas, oui, effectivement, il faudra qu'on sollicite un petit peu plus les habitants pour voir leurs aspirations aussi.
Est-ce que vous avez contacté des gens là-bas? Est-ce que le président Zelensky est au courant? Est-ce que le maire de Kiev, vous l'avez contacté également?
Les tout premiers échanges, effectivement, ça avait été avec les représentants élus de la ville de Boutcha. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, effectivement, par Dunkerque avec Boutcha. Donc, c'est un travail de partenariat qui était déjà établi. Et après, on est aussi passé par notre réseau des maires pour la paix pour rentrer en contact avec des délégations ukrainiennes. Voilà, ça s'est fait par différentes portes. Il y a eu aussi l'ambassade d'Ukraine en France qui a été notamment un partenaire assez important aussi pour nous apporter des artistes. Alors, l'Institut ukrainien aussi, hein, à Paris, pour nous apporter toute une programmation. Et on a aussi la région Bourgogne-Franche-Comté qui a un service de relations internationales et qui a un jumelage, un partenariat avec la région de Vinnytsia, donc l'oblast de Vinnytsia. Et donc, ce qui nous a permis aussi de créer du lien avec des villes ukrainiennes qui seraient en demande d'aide humanitaire ou de coopération internationale et qui ont pu aussi nous apporter beaucoup de choses en retour, notamment, effectivement, une programmation, des artistes, des sujets à aborder et à débattre dans ces milieux de culture.
Et des sujets, il y en aura, hein, gastronomie, danse, musique, littérature, mais également les épreuves que le pays traverse. Comment on trouve finalement cet équilibre entre ne pas réduire le pays à la guerre qu'il traverse et les éléments folkloriques? Elle est où la balance?
C'est vrai qu'à l'essence même des mille et une cultures, on était vraiment parti sur la découverte du folklore. La danse, la gastronomie, le sport, la littérature, etc. C'est important. Je pense que ça fait partie de l'identité d'un pays. Mais effectivement, pour nous, c'était un petit peu aussi réducteur d'un côté, parce qu'un pays, c'est aussi une histoire, c'est aussi des relations avec des voisins, et l'Ukraine a une relation toute particulière avec la Russie, à travers son histoire, et c'est vrai qu'on a voulu donner un sens plus politique aussi, on ne va pas se le cacher, et aussi historique à ces mille et une cultures. Donc c'est vrai que l'équilibre a été difficile à trouver, si bien qu'on a augmenté au fil des mois les jours de programmation. À la base, ça devait être que le week-end, et là, on a élargi vraiment du jeudi au lundi, parce qu'il y a beaucoup de sujets à aborder, vous avez raison. Je pense qu'on a trouvé un certain équilibre. On a la chance d'avoir une communauté ukrainienne aussi sur place qui nous aide beaucoup, d'avoir des associations locales qui nous aident également dans ce travail-là. Et donc je pense qu'on a réussi à trouver quand même l'équilibre entre la découverte du folklore et des traditions et aussi l'aspect plus politique des choses, ou en tout cas plus historique des choses.
Chose promise, chose due, on va parler du programme.
Oui,
vous avez composé un programme sur 5 jours qui commence par des expositions et un film, avant de passer par le théâtre, les traditions, les témoignages et enfin la plantation d'un arbre. Est-ce qu'il y a un fil rouge à tout ça?
C'est vrai que le fil rouge, c'est comment l'Ukraine arrive aujourd'hui, malgré la guerre, malgré le conflit armé, malgré tous les blocages et les freins qu'il peut y avoir, à comment ils peuvent continuer à faire vivre leur culture. Et qu'est-ce qui se cache derrière la culture ukrainienne? C'est quoi la culture ukrainienne, quoi? Bien sûr, on parle du conflit, le film est vraiment sur le conflit, la conférence va être principalement sur le conflit. Mais comment l'Ukraine arrive à raconter son récit national? Je pense que c'est ça le fil rouge, et il le fait plutôt très bien. Ils investissent beaucoup là-dessus. Ils disent aussi, par le prisme de la guerre, que beaucoup de bâtiments culturels ont été détruits pendant la guerre aussi. Normalement, c'est le bâtiment culturel, c'est comme les hôpitaux ou les écoles, on n'y touche pas. Malheureusement, il y a des musées aussi qui ont été détruits, il y a des œuvres d'art qui ont été un peu sauvées, d'autres non. Et donc, le fil rouge, c'est vraiment découvrir la culture ukrainienne, ses richesses, comment on continue à faire vivre cette culture pendant la guerre, et aussi quelle est aussi la culture des habitants, parce que c'est vraiment là une toute autre façon de vivre aussi, hein, de voir les choses, etc. Et donc là, on a aussi des témoignages, j'ai la chance d'avoir des témoignages d'Ukrainiens qui vivent ici, aussi qui vivent en Ukraine, et qui vont pouvoir nous expliquer quels sont leurs modes de vie, quelles sont leurs difficultés dans la guerre, mais au-delà de ça aussi, c'est quoi d'être ukrainien, quoi, en fait, aujourd'hui. C'est aussi ça, un peu, la question de ces milieux de culture, quoi.
Le documentaire Cuba et Alaska de Yegor Troyanovsky ouvre le volet cinématographique de la manifestation. Pourquoi avoir choisi ce film pour faire entrer le public dans la réalité ukrainienne ?
C'est un film intéressant parce que, en fait, c'est pour, alors je ne vais pas spoiler, hein, c'est l'histoire de deux infirmières qui se lient d'amitié et qui sont sur le front ukrainien. Ça raconte et à la fois le quotidien de la guerre et effectivement les atrocités qu'on peut y voir, mais il y a aussi un aspect assez caustique, assez humoristique. Avec le fil rouge qui est là pour ce film, qui est vraiment l'amitié en fait entre ces deux femmes qui sont sur le front, et c'est comment on arrive à continuer à vivre et à survivre, j'ai envie de dire, pendant cette guerre, comment on arrive à enlever ces traumatismes aussi qui se créent un peu chaque jour, et comment elles arrivent à affronter la guerre en fait. Et ça, c'est un point de vue assez intéressant, et c'est une bonne introduction, je dirais, pour aborder l'Ukraine, parce qu'on voit aussi des notions de la culture ukrainienne, mais on est vraiment sur un film très contemporain, sur le conflit, sur toute la naissance du conflit entre la Russie et l'Ukraine, et ces liens aussi qui existent entre les deux pays. Là-dessus, je pense qu'on ne pourrait pas mieux commencer qu'avec ce film pour expliquer le conflit et à la fois de commencer à découvrir la culture ukrainienne.
Vous l'avez dit, hein, des personnes ukrainiennes installées en France viendront également raconter leur parcours d'intégration. Quelle place ont-elles eues dans la conception de l'événement ? Est-ce qu'elles sont là pour témoigner ? Est-ce qu'elles ont participé à l'écriture du programme ?
Oui, totalement. C'est vrai que, au-delà de leur témoignage, on voulait les impliquer dans l'organisation, dans la préparation. On a un couple de personnes qui sont ukrainiennes, qui habitent à Pouglezo, qui nous ont même créé carrément une chanson des Mille et une Cultures en ukrainien, qui nous ont créé des capsules vidéo pour, introduire les temps forts du week-end. Ils ont vraiment participé activement à cette organisation. On a aussi donc une danseuse professionnelle qui nous animera un atelier de danse traditionnelle ukrainienne. Et on a aussi Olga Zakowska qui va nous faire un atelier culinaire sur des spécialités ukrainiennes. Donc voilà, c'est au-delà de leur témoignage. Ils ont aussi des compétences, des talents. Et on a des artistes aussi qui vont venir. Donc c'est mettre en lumière aussi ce qu'ils sont, et pas que le témoin de ce qu'ils ont vécu, en fait. Hein. C'est aussi un portrait qu'on souhaite faire de ces Ukrainiens qui sont installés en France.
J'aimerais justement faire un focus sur le concert du samedi, qui doit notamment accueillir Tatiana Prokopenko, une pianiste russe qui a fui son pays et soutient à l'Ukraine. Est-ce que sa présence est bien confirmée ?
Tout à fait, elle viendra totalement, donc le samedi soir à 20h, centre Gérard Philippe, pour ce concert classique, du coup.
Qu'est-ce que raconte son parcours de la possibilité de s'opposer à la guerre au-delà de sa propre nationalité ? Elle est elle-même russe.
C'est vrai que c'est un engagement assez fort, parce qu'elle a fui son pays, c'est principalement parce qu'il y a eu la guerre en Ukraine. Donc c'est un acte politique quand même assez important. Et de se dire, j'accepte pas ce qui se passe dans mon pays, jusqu'à le fuir, parce qu'effectivement, je pense qu'elle était aussi en danger, politiquement parlant. Aujourd'hui, c'est vraiment saluer son courage et que de lui permettre aussi de participer. Elle a participé à d'autres événements autour de l'Ukraine. Et de pouvoir défendre comme ça un pays qui n'est pas forcément le sien, alors qu'elle a peut-être des liens familiaux, hein, on lui posera la question lorsqu'elle sera là, alors que c'est pas sa nationalité d'origine, c'est vrai que c'est un acte assez fort, donc ça a toute une résonance sur ces milieux de culture.
Je voulais évidemment aborder la question de l'enfance, on est à Bac FM. Le programme comporte des dessins d'enfants de Mourafa, et la cérémonie finale réunira les enfants ambassadeurs de la paix de Varennes-Vauzelles. Quel rôle les jeunes ont-ils réellement joué dans le projet ?
On travaille beaucoup avec notre conseil municipal des jeunes, effectivement, à Varennes-Vauzelles. Ils sont partie prenante sur toutes nos actions. Et au-delà de ça, c'est vrai que c'est un public qu'on souhaite vraiment toucher et sensibiliser. Comme je vous l'avais expliqué au début, c'est vrai que le vivre ensemble, ça commence tout petit, ça commence à l'école et aussi dans les familles même. Donc effectivement, on les implique de différentes manières. Par des actions, effectivement, on met en avant, on fait aussi un concours international de dessin, celui de Myers for Peace, en tout cas on participe avec des jeunes voséliens, et avec le conseil municipal des jeunes, ils participent vraiment à toutes nos actions sur la paix. Donc c'est vrai qu'on a fait très vite, depuis 2023, on a décidé de valoriser un petit peu cet engagement, parce qu'ils sont vraiment motivés, ils participent vraiment à la réflexion, à comment construire les choses, comment construire les ateliers, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir, en fait, sur l'Ukraine, voilà, ils nous ont dit, moi j'aimerais bien apprendre là-dedans, j'aimerais bien voir des films, etc. Donc ils ont vraiment participé à l'élaboration du programme et de pouvoir aussi les mettre en avant et récompenser, c'est pas le terme, en tout cas valoriser leur engagement par justement cette cérémonie où on les mettra un petit peu à l'honneur et on leur mettra des petites surprises.
Il y aura aussi beaucoup d'actions de solidarité, hein, le samedi et le dimanche notamment. Oui. Une collecte de produits d'hygiène sera organisée avec 58 Solidarité Ukraine et Fraternité Nièvre-Ukraine. Oui. Pour les habitants de Mariupol. Comment ces dons sont-ils acheminés et comment pourrez-vous garantir cette arrivée auprès des personnes concernées ?
Oui, ça aussi c'était des questions tout à fait légitimes posées par nos habitants. Et en fait, voilà, on travaille vraiment, donc effectivement, comme vous le savez, Mariupol est occupé et donc est quasiment inaccessible. Il y a encore quelques habitants qui vivent à Mariupol. Ils sont réfugiés dans quasiment 22 villes à l'extérieur de Mariupol, principalement à Dnipro, Lviv et Kiev. Après, il y a 22 autres communes où il y a des réfugiés de Mariupol. Donc effectivement, comment les toucher et comment être sûr qu'on achemine les dons et qu'ils seront destinés aux bonnes personnes. Le principal du transport sera assuré par le 58 Solidaire avec l'Ukraine. Et je tiens à remercier vraiment son président Jean-Christophe Le Forestier qui fait un formidable travail sur ce sujet. Il a déjà commencé à recueillir des dons dans les centres commerciaux de l'agglomération de Nevers. Il a quasiment déjà 200 kilos de produits d'hygiène. Et il les stocke, il les prépare, il fait les cartons et il s'occupe du transport. Et donc avec son équipe de bénévoles, ils vont transporter par camion jusqu'à une adresse qui sera communiquée par les autorités de Mariupol, donc par le conseil municipal de Mariupol. On est en échange avec le premier adjoint et le maire. Et après on va pouvoir, donc avec les papiers de douane etc. qu'ils vont nous faire pour passer les différents pays, pour ensuite acheminer cette aide là-bas, donc dans un centre d'aide qui est agréé par les autorités locales et donc une association derrière aussi ukrainienne qui va s'occuper de répartir les dons ensuite pour les habitants.
J'ai un dernier thème à aborder avec vous, c'est peut-être pas le plus marrant, c'est celui du budget et de la transparence. La ville a inscrit un budget global de 10 000 euros, dont 4 000 euros correspondant aux charges des 6 agents mobilisés. Globalement, comment vous avez justifié cet investissement auprès de vos habitants ? J'ai cru comprendre qu'il y avait eu un débat. Oui. Et quels critères jugerez-vous que l'événement a été une franche réussite ?
Oui, effectivement, c'est vrai qu'on peut toujours poser la question, où sont les priorités effectivement dans la ville ? On a beaucoup de priorités et beaucoup de choses à faire dans une ville, bien sûr. On gère les bâtiments des municipaux, les écoles, donc bien sûr, tout est une question de critères. Donc le budget de la ville de Varennes-Vauzelles, c'est 11,5 millions d'euros et 3,5 millions d'euros d'investissement. Donc effectivement, 10 000 euros, bon, à toute raison gardée, c'est pas ce type d'action qui va mettre en péril le budget de la collectivité, ou en tout cas qui va enlever de l'argent autre part dans une autre priorité. Il y a les routes, il y a tout un tas de priorités pour Varennes-Vauzelles. Pour nous, c'est un choix politique que nous assumons complètement. Et effectivement, on répond à ce type d'argument en disant qu'en fait, oui, d'accord, ça a un coût. Après, derrière, donc, pour la municipalité, on budgétise ça dans notre budget, mais après, derrière, on va rechercher des financements publics au niveau de nos partenaires, le département, la région, l'État, qui peuvent nous attribuer ce qu'on appelle des subventions. Alors, c'est pas de l'argent magique, on est d'accord, c'est aussi de l'argent public, donc venu des contribuables, y compris voséliens. Mais en tous les cas, ça permet quand même de ne pas tout supporter sur le seul budget de la commune. Voilà, ce qui permet de dégager aussi des marges de manœuvre ailleurs. Ça, c'est le premier argument qu'on délivre. Et le deuxième argument, sur l'aspect de l'ambition qu'on veut donner à notre ville et à la culture, on veut défendre la paix, on veut sensibiliser nos enfants à vivre ensemble. Donc, en fait, on crée une action qui est très riche, très variée, avec une programmation qui est quand même assez ambitieuse, vous l'avez rappelé, du théâtre, du cinéma, de la gastronomie, des ateliers, des actions de solidarité. Donc, effectivement, il y a un certain coût, et ça, on l'assume pleinement politiquement parlant. En tout cas, nous, c'est notre choix politique. On l'a présenté à nos habitants aussi pendant la campagne électorale. On a été transparent là-dessus. Hein. On leur a dit qu'on allait faire des milliers de cultures. Et donc, effectivement, vous l'avez rappelé, nous, tout est transparent. Donc, effectivement, on donne les chiffres.
Dernière question, argent. Le ouais. budget préparatoire comporte également un cachet de 1000 euros pour la chanteuse Lou Deluz, gagnante de l'Eurovision Junior, pour les connaisseurs. Alors que sa présence, à ce jour, on enregistre cette émission le 2 septembre, n'apparaît plus dans le programme publié par la ville. Est-ce qu'elle est confirmée? Parce que c'est 10% du budget quand même.
Oui, effectivement. Alors malheureusement, on a eu des nouvelles très très tardivement par les managers de la jeune Lou Deluz. Effectivement, non, elle ne sera pas disponible pour les Mille et Une Culture 2026. On trouvait que ça avait du sens de la solliciter, puisque en plus je crois que la deuxième qui a fini juste derrière elle au concours était la candidate ukrainienne avec laquelle elle avait vraiment des contacts aussi. Donc bon, malheureusement voilà, elle est très sollicitée également, elle a fait beaucoup de concerts et de choses comme ça. Malheureusement elle pourra pas être avec nous sur ce week-end là, mais bon, c'est partie remise peut-être, pourquoi pas.
Donc ça libère 10% du budget par ailleurs,
c'est ça.
Dernière petite question, c'est des questions pratiques, hein, ça va vite.
Oui.
Comment s'inscrire aux ateliers de danse et de gastronomie?
Alors, on va publier prochainement sur les réseaux sociaux les modalités d'inscription. Ça sera principalement soit en contactant la mairie par téléphone, soit par mail au niveau du service culture. Voilà, toutes les informations seront sur nos réseaux sociaux. Il y a une adresse mail, voilà, c'est juste pour avoir à peu près le nombre de participants pour permettre aux animateurs de voir à peu près comment ils s'organisent. Voilà, surtout pour la quantité de nourriture par rapport aux recettes pour l'atelier gastronomique notamment.
Sur la solidarité, quel produit le public peut-il apporter pour la collecte destinée à Mariupol et où devra-t-il les déposer?
C'est principalement des produits d'hygiène, donc tout ce qui va être shampoing, dentifrice, gel douche, tout ce qui va être aussi des couches et des protections effectivement urinaires. Et donc ils peuvent venir sur l'intégralité du week-end des Mille et Une Cultures, donc du jeudi au lundi en mairie sur les événements, hein, sur le centre Gérard Philippe, et les remettre aux deux associations qui auront des stands, donc l'association Fraternité de Nièvre-Ukraine et le 58 Solidaire avec l'Ukraine. Donc on aura des cartons pour impacter ses dons, et ils seront stockés jusqu'au 18 octobre, date de départ du convoi.
Et enfin, où est-ce que peut suivre la municipalité sur les réseaux sociaux pour avoir des infos?
Alors, sur Facebook, hein, on a une page Facebook où il y a vraiment toutes les informations. Ville Varennes-Vauzelles. On a également Instagram. On a un TikTok aussi qu'on est en train de développer.
Ça arrive.
Ça arrive.
Ça arrive. J'imagine qu'on tape Varennes-Vauzelles, on devrait...
Oui, Varennes-Vauzelles. Ville Varennes-Vauzelles, vraiment, c'est les trois mots où on tombe vraiment sur le compte, on est sûr d'arriver sur les bonnes pages. Et on a un site internet on est en train de le refaire, et il sera bientôt tout neuf. Hein. Voilà, on va revenir vers les habitants prochainement pour une petite soirée spéciale, un petit événement spécial sur le lancement du nouveau site internet de la ville. Donc voilà, on aura bientôt un nouveau site internet, mais c'est là encore ville-varennes-vauzelles.fr.
Merci beaucoup, Florent Guyon, d'avoir répondu à mes questions.
Merci beaucoup.
C'est la fin de cette émission, chers auditeurs. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce CDLP. Restez avec nous, la musique rock et metal revient dans un instant sur BAC FM 106.1.